à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon et Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Loridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Inès De Brune. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémon.
Bonjour.
Tout va bien ?
Ben, tout va bien.
On va parler des États-Unis, Marc. Le 24 septembre dernier, une procédure d'impeachment a été lancée à l'encontre de Donald Trump. À l'origine de la démarche, eh bien, les récentes révélations concernant la demande formulée à son homologue ukrainien par téléphone d'enquêter sur les activités du fils du démocrate Joe Biden. Ça faisait un moment que les démocrates hésitaient à lancer cette procédure. La voilà désormais sur les rails, mais a-t-elle seulement une chance d'aboutir? Ne risque-t-elle pas de finir comme l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe? Voire pourrait-elle jouer en faveur du 45e président des États-Unis et pénaliser le camp démocrate? Quoi qu'il en soit, elle marque très clairement l'accélération de la campagne pour 2020 qui a bel et bien commencé. Alors, l'impeachment empêchera-t-il la réélection de Donald Trump? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher. Pour ce faire, deux invités. Steven Ekovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, historien, professeur à l'Université américaine de Paris. Nous attendons, qui va arriver dans quelques instants, Anne Desine. Mais avant d'évoquer toutes ces questions américaines, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'association des prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Égypte, c'est Hélène Salon. Bonjour Hélène Salon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Monde, on vous reçoit pour une série d'articles publiés dans Le Monde. Alors je redis pour peut-être rappeler aux auditeurs en quelques mots, l'Égypte depuis quelques semaines maintenant connaît une vague de manifestations dans un certain nombre de villes. Ces manifestations, elles étaient devenues assez rare, voire quasiment inexistante, puisque de fait, les rassemblements ont été tout simplement interdits par une loi qui a été votée après l'arrivée de l'actuel président Sisi, après le coup d'État contre le président égyptien Mohamed Morsi. Et pourtant, il se trouve qu'il y a donc une quinzaine de jours, trois semaines, plusieurs mobilisations ont eu lieu, réclamant le départ de cet actuel président. Le pays, il vit, c'est vrai, sous une chape de plomb, hein, disons-le, depuis 2013, depuis l'arrivée d'Al-Sisi. Ces mobilisations, ça a été quand même une surprise un peu pour tout le monde. Hein.
Ah oui, ça a été une surprise vraiment pour tout le monde et même en premier lieu pour les anciens révolutionnaires de 2011 de la place Tahrir qui sont soit tous en exil, en prison ou ont plus ou moins arrêté toute activité politique. Ils, eux non plus n'ont pas vu venir le mouvement. Pardon. Et il y avait quand même des signes d'une colère à cause de la dégradation de l'économie. Mais le fait qu'il y ait une répression très forte des manifestations, la dernière a eu lieu en avril 2016, pardon, personne ne pensait que les jeunes qui sont descendus dans la rue briseraient ce mur de la peur.
Et pourtant, il s'est effondré, en tout cas en partie. Alors, au départ de ces manifestations, qui étaient, disons-le, quand même relativement sporadiques, il y a quelque chose qui va accélérer vraiment le mouvement de protestation. C'est une série de vidéos qui ont été diffusées par un entrepreneur égyptien exilé en Espagne qui s'appelle Mohamed Ali. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet homme, ce qu'il reproche au régime?
Alors, c'était vraiment un entrepreneur inconnu qui avait quelques velléités d'être acteur, donc peut-être qu'il était apparu dans quelques petits films. Mais en fait, il est représentatif de cette classe d'entrepreneurs qui en fait, avec l'arrivée au pouvoir de l'armée, qui a quand même pris le contrôle de beaucoup de projets d'infrastructures, de méga projets, c'était une petite entreprise de BTP. Lui, son père est dans l'armée, donc il bénéficie de cette connexion. Il se retrouve à sous-traiter sur de nombreux projets de l'armée en infrastructure. De là, il y a des problèmes qui ont lieu dans ces contrats qu'il a avec l'armée. Il n'est pas payé. L'armée lui doit des millions de livres égyptiennes. Il est parti en Espagne il y a un an. Et début septembre, il commence à lancer une série de vidéos où il se plaint. Alors, il parle surtout de son conflit financier. Mais après, il continue donc en dénonçant la corruption, la gabégie du président Sisi et de l'armée avec ses grands projets où les entrepreneurs ne sont pas payés. Et là où ça fait mouche, c'est que ça fait écho donc à tous ces problèmes économiques que vivent les Égyptiens depuis la fin 2016 et la mise en place des mesures d'austérité avec le plan FMI, perte du pouvoir d'achat, fin des subventions publiques à l'électricité, à l'énergie, au transport, etc. Ça fait écho aussi à leur étonnement de voir tous ces méga projets se mettre en place et de n'avoir aucun dividende de ces projets.
Oui, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit des méga projets, mais il s'agit beaucoup d'hôtels de luxe, du palais présidentiel, voire même de la construction de la mer d'Al-Sisi. Donc des projets qui, en réalité, ne profitent pas aux gens. Ce sont des accusations qui sont justifiées, légitimes.
Légitimes et aussi, oui, elles sont légitimes parce qu'ils pointent vraiment le doigt sur de la corruption et de mauvaise utilisation des fonds publics. Et ils critiquent même les méga-projets qui sont vus comme un peu plus utiles, au moins par le peuple, comme la nouvelle capitale économique, le doublement du canal de Suez. Ils disent c'est mal pensé. Mais alors ce qui aussi va créer un choc avec Mohamed Ali, c'est qu'il c'est quelqu'un qui vient de background, d'une famille assez pas très cultivée. Il parle vraiment très mal et il insulte beaucoup le président Sisi et l'armée, et ça c'est du jamais vu en Égypte. Je pense que même Moubarak n'avait pas été insulté comme ça, et ça a quand même aidé à désacraliser l'image de Sisi, et donc ça a créé comme un électrochoc tous ces jeunes. Alors tout le monde a regardé. Hein. Moi, j'ai parlé à des gens qui étaient pro Mohamed Ali, enfin pro mouvement, plutôt au milieu ou très pro Sisi. Même les pro Sisi les ont vus, ces vidéos. Tout le monde a suivi et tout le monde a. Alors, il y a ceux qui disent, pour moi, c'est un héros parce qu'il dit ce qu'on pense. Il y a ceux qui disent, c'est quand même quelqu'un qui s'est engraissé sur la bête pendant un moment, et dès que ça a plus marché, il vient nous étaler son conflit financier, en plus en des termes injurieux. Moi, j'aime pas trop le personnage, mais il a quand même pas tort. Donc, ça a quand même pris dans toute la société, ça a fait mouche. Et donc, c'est là où ça a permis de cristalliser un peu la colère de ces jeunes et de leur donner l'envie de descendre. Ce qu'on m'a dit, c'est pas tant ces vidéos que la réponse qu'a donnée Sisi le 14 septembre lors de la conférence pour les jeunes qui a vraiment créé l'étincelle, parce que le président Sisi, au lieu d'ignorer totalement cette personne qui finalement est inconnue, lui a répondu, donc il le met au même niveau que lui, il lui donne une crédibilité et au lieu de dire non, c'est pas vrai, je construis pas de palais, je construis
j'en
pas
construis,
de projet.
Je vais continuer à en construire.
Et je vais continuer à en construire.
La réaction justement de Sisi, quand les premières manifestations éclatent, il est en route pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Quand il revient, comment ça se passe? Est-ce que c'est une situation qui le préoccupe? Comment est-ce qu'il répond d'abord sur le plan sécuritaire et puis ensuite on verra sur le plan judiciaire? Mais d'abord sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il met en place? Est-ce que ça le préoccupe?
Pour reprendre juste un peu avant, à son départ, le 20, ce qui a été une forte inquiétude aussi, je pense, pour le régime, c'est que le verrouillage sécuritaire était bien tenu jusqu'au 20, et le 20, pendant une heure, deux heures, on n'a vu quasiment pas de réaction des forces de sécurité. Donc il y a une inquiétude quand même au sommet de l'État et beaucoup de supputations sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe aussi au sein de l'armée ou au sein des renseignements généraux contre Sisi. Est-ce que finalement, et alors c'est des suppositions qui sont relayées par l'opposition ou même par des gens dans la rue, de dire est-ce que Mohamed Ali n'est pas aidé? Est-ce qu'il n'est pas la création aussi de quelqu'un, d'un groupe, et alors les gens pointent plutôt vers les renseignements généraux, qui sont pas contents de Sisi, ou des gens au sein de l'armée, du président Sisi, et qui aident à créer un mouvement, peut-être pour pousser Sisi à la sortie.
Mais ça, pardon, c'est seulement des rumeurs ou...
C'est invérifiable.
C'est invérifiable.
C'est le pouvoir en Égypte, comme c'est l'armée qui contrôle tout autour de lui. Monsieur Sisi n'a plus que des militaires, il n'a plus de conseillers civils. C'est une boîte noire. Donc on ne sait pas, on le saura peut-être si on le voit couper des têtes dans les semaines qui viennent. Et ça va donner des indications de est-ce qu'il remet de l'ordre.
Oui, pour l'instant, on ne sait absolument pas s'il contrôle, oui ou non, parfaitement l'armée, ou s'il y a des dissensions,
s'il
éventuellement
commence à y
des figures
des
qui commencent.
Et donc c'était ça tombait bien que ces manifestations arrivent le 20 alors qu'il est dans l'avion. Quand il revient le 27, il y a un verrouillage, le chef revient, c'est impossible dans la mentalité du pouvoir que ça reparte comme la semaine d'avant. Donc on a vu des...
Donc on bloque tout, on ferme les stations de métro, on met des checkpoints partout, on vérifie les
vagues d'arrestations toute la semaine entre le 20 et le 27 et qui a pris des dimensions jamais vues, même en Égypte, hein, alors qu'il y a eu quand même la répression contre les frères. Là, en 6 jours, on arrive à déjà 2000 arrestations, non seulement le jour qui sont... La moitié, pour moitié des gens lors des manifestations, pour moitié des gens qui sont arrêtés dans la rue. Et pour la première fois, on voit quand même les forces de sécurité fouiller les téléphones portables. Et ceux qui ont des vidéos ou sur les réseaux sociaux se sont exprimés en faveur des manifestations sont arrêtés.
Ça ne se faisait pas avant.
Ça ne s'est jamais fait.
Cette pratique. Oui, il y a Gamal Ed, qui est un avocat et directeur du réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme, qui parle de la plus grande campagne d'arrestation dans la rue observée en 50 ans. C'est dire si...
Oui, parce que c'est une semaine. Ouais. Et on est maintenant à des chiffres, je pense, on est plus près des 4000, 5000 arrestations.
Qui
en
sont
tout.
Passées devant le procureur?
Non, on est à 3000 devant le procureur, mais... Les organisations pensent qu'il y en a encore disparu, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été identifiés.
Vous évoquiez, Hélène Salon, la question des frères musulmans. On sait qu'ils sont considérés, depuis l'arrivée de Sissi, comme une organisation terroriste. On a assez largement, réprimé le mouvement en mettant les principaux cadres en prison. D'autres sont partis en exil. Le pouvoir accuse évidemment ces frères musulmans d'être derrière ces mobilisations. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que c'est ce qu'ils semblent apparaître dans les manifestations, dans les profils des gens qui descendent dans la rue?
Alors les avocats qui ont établi les statistiques des personnes arrêtées sont formels. Ils ont un profilage très clair. Hein. La majorité sont des jeunes de 18 à 30 ans qui sont soit des étudiants, soit des personnes de background assez populaires. Et ils m'ont dit, j'ai vu des avocats qui m'ont dit, c'est certain pour nous que ce ne sont ni des jeunes politisés. Dans nos échanges avec eux, ils sont incapables de parler politique, ils n'ont aucune culture politique. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas non plus frères musulmans. Alors il me citait, il rigolait, il disait à la façon, enfin les voir fumer et jurer comme ils le font, c'est sûr que ce sont pas des frères musulmans qui sont des islamistes.
Ouais, et puis ce qu'il vous dit aussi, c'est que en général, quand il y a des militants des frères musulmans, ils sont défendus par des avocats qu'on connaît très bien.
Voilà. Les avocats des frères musulmans.
Ouais. Là, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. C'est eux qui les défendent. Et aussi, il faut voir, ça fait sens. Les frères musulmans sont quand même soumis à une campagne de répression depuis 2013 qui est massive. Tous les cadres sont soit en exil, soit en prison. Et aussi tous les jeunes, parce qu'il y avait eu à nouveau les manifestations de l'automne 2016 dans les universités où il y avait encore beaucoup de jeunes frères musulmans qui participaient. Moi, c'est la dernière fois, je pense, que j'avais rencontré des jeunes fréristes. Et ils avaient été une fois à nouveau la cible de la répression. Donc il n'y a plus vraiment de frères musulmans actifs en Égypte. La plupart sont à l'étranger ou en prison. On a vu d'ailleurs cet été des appels des jeunes frères en prison à une grâce présidentielle en disant en échange, on promet, on ne fera plus aucune activité politique. Ils sont vraiment à genoux et ils sont contrôlés, surtout qu'ils sont connus. Les militants, c'est pour ça aussi on a vu le 20, il n'y avait pas de révolutionnaires dans la rue parce que eux savent bien qu'ils sont connus des renseignements, ils descendent, il y en a eu quelques-uns, ils ont été arrêtés immédiatement, leurs visages sont...
Hélène Salon, vous avez croisé évidemment aussi des révolutionnaires de la génération 2011. Vous faites notamment le portrait d'une de ces icônes, Ala Abdel Fattah, qui avait été d'ailleurs arrêtée en 2013, qui avait été condamnée, puis qui finalement était sortie de prison en mars dernier, qui là a été à nouveau arrêtée, renvoyée derrière les barreaux. Quelle ressemblance et quelle dissemblance entre cette génération de 2011 et celle qu'on voit aujourd'hui?
Alors, ce qui est intéressant, par exemple, je suis allée dans un quartier, justement, à partir d'un jeune qui a manifesté cette fois-ci, Ard El Liwa, un quartier populaire du Caire, près de Mohandessine, où il y a eu des manifestations le 20. Et j'ai rencontré aussi, dans le quartier, un révolutionnaire de 2011, et qui lui me disait... On les connaît pas du tout, on sait pas qui c'est, et ils sont pas comme nous. C'est sûr qu'il n'y a pas de motivation politique comme nous,
Mais ils sont pas des mêmes quartiers?
Ils sont des mêmes quartiers. Il dit, mais c'est vrai que l'aspiration première chez eux, c'était en 2011, c'était vraiment politique, droits de l'homme, avoir des libertés, pas injustice sociale et liberté. Il dit, là, on voit bien qu'il y a un moteur économique qui est premier. Il dit, mais attention, faut pas les réduire à ça, parce que c'est des jeunes aussi qui, finalement, c'est ceux qui étaient enfants avec nous sur la place Tahrir, qui nous ont vus réclamer nos droits et les obtenir pendant un certain moment. Il disait par exemple, nous dans le quartier, on a réussi dans la période de 2011-2013 à monter et administrer le conseil des jeunes, et c'est nous qui avons porté beaucoup de projets pour refaire des immeubles, des salles, des rues dans le quartier. Et ça, les jeunes l'ont vu, que le pouvoir qui nous était conféré par ces petites associations locales, donc démocratiques, permettait d'embellir le quartier, de le tirer vers le haut, d'en faire quelque chose. Quand l'armée est revenue, ces conseils ont été complètement bridés. Ils ont commencé à mettre des jeunes qui leur étaient fidèles. Ils n'ont plus rien fait. Et dit voilà, ils ont vu la différence, même au niveau du quartier, entre ce qui pouvait être fait avec certaines libertés et ce qui était maintenant. Donc voilà, il y a quand même un aspect liberté, je pense, des aspirations
qui est là aussi.
Mais c'est vrai.
Mais l'essentiel, c'est l'économie.
C'est l'économie et le fait de n'avoir accès à rien, parce que si on n'a pas de connexion dans l'armée ou la police, on n'est personne.
Cette question économique, justement, on savait dès l'arrivée de Sissi au pouvoir que ce serait le grand défi, le défi majeur pour Al-Sissi, c'est améliorer l'économie. Alors très clairement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, même si il y a quelques améliorations depuis quelques mois. Le chômage descend un tout petit peu. Alors pour les jeunes, c'est toujours très 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 fort. C'est un tiers quasiment des jeunes qui sont au chômage. Il y a des perspectives intéressantes sur la découverte de gisements d'hydrocarbures. Il y a le tourisme qui reprend un petit peu. Donc ça reprend un petit peu. Comment se fait-il il y a deux choses. Comment se fait-il que ce mieux finalement ne soit pas ressenti par la population? Et la deuxième grande question, c'est pourquoi il a échoué, Sissi? Pourquoi sa politique économique n'a pas permis de remettre l'économie sur les rails?
Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'il ne faut pas tout mettre sur... toute la responsabilité ne revient pas au président Sissi.
Il est en place depuis 6 ans. Hein.
Voilà, il a eu le courage de faire ce que pendant 40 ans, aucun chef de l'État, Moubarak, notamment, qui était 30 ans au pouvoir, n'a pas fait.
C'est-à-dire
Moubarak a continué à garder les subventions publiques qui couvrent tout, la nourriture, l'électricité, l'énergie, les transports. C'est pas viable. On peut pas continuer à... Enfin, l'État s'est effondré à cause de ça aussi, parce qu'il y avait trop de subventions qui étaient données. Le président Sissi, quand il arrive, donc il a plus le choix, parce que de toute façon le pays est au bord de la faillite, il est obligé d'accepter le plan du FMI, donc avec en contrepartie des mesures d'austérité. Et aussi, il y a eu la dévaluation de la livre face au dollar, c'est là où il y a une forte inflation, baisse du pouvoir d'achat. Je pense que là, tous les indices macroéconomiques sont bons actuellement. Donc c'est pour ça qu'on a des rapports, des avis du FMI qui sont toujours « Ah, l'Égypte fait bien son travail, avance bien sur les mesures, etc. »
C'est pas l'avis de la société égyptienne.
Mais c'est pas l'avis de la société égyptienne, parce que l'inflation... Toutes les coupes aux subventions publiques ont fait qu'il y a une perte terrible du pouvoir d'achat. On est maintenant avec une augmentation, les derniers chiffres de l'Institut de statistique égyptien montrent que les gens sous le seuil de pauvreté sont passés de 27 à 32%. Ce qui est pire, c'est que la classe moyenne a totalement disparu, parce que en plus de ces 32%, on a 30% des gens qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Donc c'est très dur et les méga-projets ne permettent pas de répondre à ça.
Et Anne Salon, toute dernière question, parce que c'est vrai qu'il y a ces mouvements de protestation qui critiquent l'action de Sissi, mais il y a aussi des Égyptiens, des Égyptiennes qui soutiennent Al-Sissi. Vous en avez rencontré quelques-uns, je pense à Gamal, un ébéniste de 65 ans que vous décrivez, dont vous faites le portrait. Il y a aussi cette femme, Eman Anwar, qui est une mère de foyer d'une quarantaine d'années. Et ce qu'elle vous dit précisément, Eman Anwar, c'est que elle ne veut absolument pas que son pays bascule dans une situation comparable à la Syrie ou la Libye. C'est elle qui fait la comparaison. Et elle vous dit mais est-ce que réellement cette comparaison est fondée? Voilà, c'est ça la question que je vais vous poser. C'est-à-dire, est-ce que le pays, là, peut basculer dans quelque chose de l'ordre de la guerre civile, quelque chose de cet ordre-là?
Non, je pense pas, parce que le pays, l'armée est vraiment la colonne vertébrale, et même l'idée chez beaucoup de jeunes qui ont manifesté, ils aimeraient même davantage que ce soit l'armée qui remplace Monsieur Sissi et d'avoir quelqu'un qui soit quand même moins répressif. Donc ce discours de Syrie, on risque de devenir la Libye et la Syrie, c'est le discours qui est instrumentalisé par le pouvoir, comme l'épouvantail des frères musulmans. Mais c'est pas un risque réel, même s'il y a un peu d'État islamique dans le Sinaï. Je pense que personne veut arriver à ce point-là. Là, ce qui est intéressant chez Ayman et qui est assez représentatif de l'évolution de l'opinion, oui, on a encore des soutiens de Monsieur Sissi, mais il a quand même énormément perdu du fait de la dégradation de l'économie. Et Ayman représente bien cette classe qui, il y a peut-être 2-3 ans, lui était totalement favorable et n'aurait pas émis une seule critique. Là, ils sont arrivés à un point où ils critiquent l'économie, elle croit ce que dit Mohamed Ali, et ils critiquent aussi le fait que lors de la dernière élection présidentielle, il a quand même fait arrêter ou empêcher de concourir tous les candidats qui lui étaient opposés. Et ça, les gens, ça a été aussi très dévastateur dans les esprits.
Merci beaucoup, Hélène Salon, d'être passée dans le studio. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde. On peut retrouver tous vos papiers sur le site du Monde, lemonde.fr. Un grand merci.
Merci, Benoît.
ماضي وذكرى عندي ابو فكرة خلينا بكرة خلينا بكرة انا ناسية وفكرة بقى ماضي وذكرى عندي ابو فكرة خلينا بكرة
Allez, on va quitter l'Égypte, on va prendre la direction des États-Unis. L'impeachment empêchera-t-il la réélection de Donald Trump ? C'est la question qu'on va se poser ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque le 24 septembre dernier, les démocrates ont fini par déclencher une procédure de destitution à l'encontre du président américain, ce qui a provoqué évidemment la colère du président. Cette colère, on l'a entendue cette semaine d'ailleurs.
Did you hear me ? Did you hear me ? Yes, ask him a question.
I will, but
I've given you a long answer. Ask this gentleman a question. Don't be rude.
No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked
I've
you.
I've answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt.
Voilà, c'est un canular, c'est les médias corrompus qui organisent tout ça. Voilà ce que disait en substance Donald Trump cette semaine lors de la visite du président finlandais, qu'on voit d'ailleurs à l'image un petit peu étonné, hein, il sait pas trop comment se comporter. Pour évoquer donc cette procédure d'impeachment, mais bien d'autres choses, puisqu'en réalité c'est aussi la campagne électorale qui est bel et bien lancée maintenant. Stephen Ekovitch est avec nous, je l'ai salué tout à l'heure. Anne Desine est arrivée, bonjour Anne Desine. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, une spécialiste des questions politiques mais aussi juridiques aux États-Unis. Ça tombe bien. Les deux vont être évoqués ce matin. Marc Semo, on a évidemment là la question de l'impeachment même, bien sûr, mais on a la question plus globale de la campagne qui est bel et bien lancée et on voit qu'elle va être une campagne extrêmement brutale. Ça, c'est très clair. On le voit d'ailleurs avec la déclaration là, cette semaine de Donald Trump. On avait été servi pour 2016, pour 2020, ça s'annonce aussi extrêmement violent.
Absolument. Mais surtout, moi, je voudrais revenir sur l'origine de ce scandale, hein, sur ce transcript, cette conversation du 25 juillet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il ne faut pas oublier que c'est la Maison-Blanche elle-même.
Le président ukrainien.
Voilà, le président ukrainien. C'est la Maison-Blanche elle-même qui l'a rendu public. Et il est extrêmement révélateur, et encore plus peut-être préoccupant, que le président américain n'en ait absolument pas saisi la portée. Il était convaincu que cela enfoncerait plutôt Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui faisait alors la course en tête parmi les prétendants démocrates à l'investiture, parce qu'effectivement, ce transcript montrait qu'il y avait un possible conflit d'intérêts entre lui et son fils, Hunter Biden, qui était membre du conseil d'administration d'une société de gaz ukrainienne, éclaboussée par une affaire de corruption. Alors, cet entretien montre avant tout si l'enquête confirme tout ce qu'il y a là, un évident abus de pouvoir de la part d'un président américain qui conditionne l'aide militaire à un pays étranger à une opération politique contre son probable adversaire à la présidentielle. Et Donald Trump n'a absolument pas saisi la portée de ce scandale que cela représente. Parce que ces pressions, ce chantage mafieux, pour les mots, selon les mots de nombreux démocrates, est d'autant plus scandaleux que l'Ukraine, dont une partie de l'Est est occupée par des rebelles pro-russes soutenus par Poutine, a un besoin vital du soutien américain. Et donc cette dimension-là, il ne l'a absolument pas saisie, et cela explique probablement aussi peut-être ce retournement de l'opinion, parce qu'il a perdu 10 points dans les sondages, il est en difficulté, et quand bien même, on y reviendra dans la discussion sur la procédure d'impeachment, en tout cas, sa réélection qui semblait plausible, voire probable, il y a encore quelques semaines, aujourd'hui est profondément plombée.
Et oui, c'est peut-être la première fois qu'il perd autant dans les sondages, précisément. Mais alors, on va commencer avec vous, Anne Designes, il va falloir revenir évidemment sur la procédure. Mais sur ce que dit Marc, c'est-à-dire, il a utilisé un mot important, la question du chantage. Est-ce qu'effectivement, quand on regarde, quand on lit le contenu des échanges, on peut parler de chantage ?
Alors, je veux revenir d'abord sur l'autre idée qui est essentielle. Anne Designes. Tout son équipe à la Maison-Blanche était contre la divulgation,
la publication du document,
de cette prise de notes. Parce que dès qu'on connaît un peu les institutions et la culture politique américaine, on savait que c'était dramatique.
Hyper risqué.
Mais lui, avec son sens de l'impunité, c'est quand même une personnalité, quand il nous dit « je peux tuer quelqu'un sur la 5e avenue, il ne se passera rien », et sa méconnaissance à la fois parce qu'il est inculte, mais aussi parce qu'il ne veut pas s'y intéresser, il a dit « mais non ». On va révéler, on va divulguer cette lettre. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est que c'est une affaire compliquée et que malheureusement, comme elle est compliquée, elle va faciliter la tâche de la manipulation par ses troupes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, l'office Biden n'a pas été très très bon. Hein. Les républicains sont contents de dire qu'il gagnait 50 000 dollars par mois. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir de travailler dans cette société. Mais lorsque Joe Biden est allé en Ukraine, et qu'avec les Européens, ce que se garde bien de dire Trump, ils ont poussé à la démission du procureur, c'est parce que celui-ci ne faisait pas son boulot et n'enquêtait sur aucune société, y compris celle dans laquelle siégeait l'office Biden. Et c'est devenu l'inverse, c'est-à-dire c'est devenu Biden a fait pression pour se débarrasser de ce monsieur parce que ça mettait son fils en danger. Donc on voit ici deux choses, à la fois le sens d'invulnérabilité du président, qui ne devrait pas être président. Il y avait un long article, c'est drôle d'ailleurs, du mari de Kellyanne Conway, qui est un avocat et qui lui est républicain. Mais conservateur, enfin, il voudrait un président normal. Ce long article montre que Trump est à la fois narcissique et n'a aucun sens de l'empathie, et que sans entrer, parce que le grand débat, c'est qu'on ne peut pas faire de diagnostic à distance, etc., que sans rentrer dans ce débat, il n'a pas les qualités que les pères fondateurs ont écrites dans le Federalist Paper, dans le Fédéraliste, pour être président, et en particulier un sens d'éthique et de confiance, en fait.
Peut-être qu'il n'a pas le sens d'éthique, mais il a un sens politique. on va y
c'est
revenir.
Ça, le danger. C'est ça le danger.
C'est absolument certain. Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question que je vous ai posée sur le chantage, mais je vais y revenir. Stephen Ekovic. Oui. C'est votre tour. Non, Stephen Ekovic, chacun son tour. Stephen Ekovic, sur effectivement la décision de Donald Trump de publier ce document.
Oui, en effet, on peut se demander dans quelle mesure Donald Trump apprécie la solidité des institutions américaines. En fait, on est en train de voir assister au dénouement d'une lutte assez longue maintenant entre Donald Trump et les institutions des États-Unis. Et pas seulement les institutions des États-Unis, mais d'autres institutions comme l'ONU, comme l'Union européenne et l'OTAN. Ils n'arrivent pas. Ils butent contre ces institutions. Les institutions résistent. Donc, un seul soulagement éventuel, c'est que on attend des institutions à jouer leur jeu. Et il semble aussi que, puisque c'était Donald Trump tout seul qui a décidé de rendre public ces documents, s'il fait campagne, il semble qu'il va entrer en liste comme cavalier seul. On se demande dans quelle mesure le Parti républicain va appuyer, va soutenir un quel candidat. Après tout...
Enfin, on s'est posé la question en 2016, il a pourtant soutenu.
Hein. Et oui, mais ça... On est dans un cas de figure assez différent et assez dramatique. N'oublions pas quand même que les élus vont se protéger leur siège, leur peau. Et les barons du parti veulent aussi protéger l'avenir du parti républicain. Donc, ils vont suivre les sondages de près. Pas seulement les sondages sur le plan national, mais les sondages aussi locaux, pour voir dans quelle mesure cette scandale va miner leur chance d'être réélu. Mais ces sondages nationaux ne disent pas grand-chose sur les sondages locaux, ouais. Parce qu'il y a quelques sénateurs qui dépendent beaucoup de cet électorat Trump, et dans certaines circonscriptions aussi. C'est pourquoi ils hésitent aujourd'hui de monter au créneau et critiquer ouvertement. Il y a un grand silence maintenant chez les républicains.
En tout cas, au global, ça bouge beaucoup, hein, comme le disait Marc. Là, j'ai regardé un peu les sondages cette semaine. Aujourd'hui, on a un taux de soutien de 46% pour destituer le président Donald Trump contre 43% qui y sont opposés. Ça, c'est les chiffres des instituts politiques au Morning Consult. Il y a 15 jours, on avait 49% de contre et 33% de pour. C'est dire si ça a considérablement bougé. Anne Desine, je vous fais travailler. La procédure d'impeachment, vous nous rappelez en quelques mots de quoi il s'agit, comment ça fonctionne? Vous êtes juriste.
Oui, mais je reprends puisque vous me donnez. Donc, oui, c'est un chantage.
Mais si vous ne répondez pas à celle-là, faudra y revenir quand même. Hein.
Donc, non, c'est un chantage. C'est clairement un chantage implicite. Il n'est pas explicite, encore que le transcript, nous n'avons pas nécessairement la totalité. Il semblerait maintenant que le transcript, enfin cette fameuse transcription, les notes prises par ceux qui étaient présents, et on apprend qu'il y avait un conseiller de Pence, enfin chaque jour on apprend des choses, et si ça se trouve le transcript a été un peu bidouillé, donc peut-être que quelque part il y avait quelque chose, on ne sait pas. Donc c'est un chantage. Alors la procédure d'impeachment, elle a été prévue par les pères fondateurs, et elle est bien expliquée par Hamilton dans le Fédéralisme 65. C'est une procédure qui a été empruntée à l'Angleterre, et les pères fondateurs se sont dit, bon, la trahison, c'est bien, bribery, la corruption, c'est bien, mais ils nous font une sorte de chapeau un peu large qui permette de capturer tout ce qui mettrait en jeu l'intégrité des institutions. Et c'est devenu high crimes and misdemeanors, donc les crimes et les délits élevés, enfin, quelle que soit la traduction, que l'on adopte.
Article 2, section 4.
Voilà. Et l'idée importante, c'est que ça n'a pas besoin d'être un crime puni par le code pénal. C'est-à-dire qu'il y a donc bien une distinction entre ce qui est pénalement sanctionnable et ce qui relève d'un comportement qui tombe sur le coup de l'impeachment parce que la personne, le président en l'occurrence, a manqué à son devoir de, et là les termes de la Constitution sont importants, de défendre la Constitution, c'est l'une de ses missions, et de veiller à l'exécution fidèle des lois. Non seulement il ne fait pas tout ça, mais il viole allègrement et quotidiennement la Constitution, et c'est ce que j'explique dans mon bouquin à venir, les normes écrites, donc la séparation des pouvoirs, les pouvoirs budgétaires du Congrès, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de la presse, mais il viole aussi les normes non écrites, ce qui ne figure dans aucun texte, mais qui permettent au système politique de fonctionner, en particulier en mentant. Le mensonge du président,
c'est pas interdit. La procédure, Anne Desine.
Alors, premièrement, la Chambre des représentants, ben, il fallait quand même expliquer high crimes and misdemeanors.
Absolument.
Et là, ce sont les démocrates qui sont majoritaires. Donc, ils vont faire un calcul. Parce que, a priori, ils ont la majorité. Donc, ils peuvent voter la mise en accusation. Mais nous parlons certainement des risques politiques. Donc, là, il y avait d'un côté les risques constitutionnels de ne rien faire parce que ça crée un précédent. Et le président suivant va chausser les chaussures, si j'ose dire, d'une présidence totalement impériale, pouvant faire des choses auxquelles on n'avait même pas pensé.
Première étape, donc la Chambre des représentants, on ouvre ou non un procès. Deuxième étape, le Sénat.
Voilà. Et le Sénat joue le rôle de juge sous la présidence du Chief Justice, du président de la Cour suprême, mais doit voter la destitution aux deux tiers. C'est la raison pour laquelle Clinton et avant Andrew Johnson ont échappé à la destitution alors qu'ils ont été mis en accusation par la Chambre.
Stephen Yankovitch, du point de vue politique, est-ce que les deux tiers au Sénat peuvent éventuellement être atteints? Il faudrait pour cela évidemment que les conservateurs, certains en tout cas, retournent leur veste.
Aujourd'hui, on dirait non, mais on ne sait pas. Il semble qu'un sénateur a révélé, si le vote a été anonyme, Donald Trump serait désinvesti. Mais ce n'est pas un vote anonyme. Il faut que cette vote soit affichée publiquement. Donc, encore une fois, là, on voit une certaine frilosité du côté du Parti républicain, ce qui explique le silence des élus républicains. Mais je crois qu'il faut ajouter à cette très bonne explication de la procédure d'impeachment qui est inscrite dans la Constitution. La Constitution a constitution dont James Madison était, le père fondateur, comme dans toute démocratie, fragmente les pouvoirs sur les trois branches, mais aussi, il ne faut pas oublier, cette constitution aussi distribue le pouvoir d'une façon verticale sur... C'est un État fédéré. Et aussi, une des institutions qui résistent, ce sont des États fédérés. Il y a plusieurs États fédérés qui quasiment résistent à Donald Trump et certaines législations nationales. Et on parle des médias, des intellectuels, de la Maison-Blanche.
Est-ce qu'il y a des sénateurs qui pourraient voter pour la destitution?
Certainement.
Des noms? Des candidats?
Des candidats actuels.
Des sénateurs qui pourraient.
Oh bah je
Mitt Romney s'est dit extrêmement préoccupé de la situation, par exemple.
Oui, les sénateurs démocrates vont vraisemblablement.
Les démocrates, oui, mais
Ben Sasse, évidemment.
Chez les républicains, on voit qu'il y a un très grand gêne chez certains sénateurs républicains, comme Mitt Romney, qui éventuellement peut être un candidat pour de remplacement.
Marc Semo, et puis Annesine. Marc Semo.
Si la procédure d'impeachment n'est pas votée par le Sénat, est-ce qu'il y a un...
Donc on a déjà, vous pensez qu'on a déjà...
Non, mais si on était arrivé à cette étape, voilà, c'est devant le Sénat, imaginons qu'elle ne soit pas votée, est-ce qu'il y a un réel risque politique de l'effet boomerang?
Ah bah oui.
Éventuellement, on ne sait pas, on est dans une terra incognita, il faut dire que cette procédure d'impeachment n'aide pas Donald Trump. Dans quelle mesure ça va vraiment miner une réélection de Donald Trump? Là, on est dans l'inconnu pour l'instant.
Oui, deux choses. Il faut quand même voir que dans les fiefs Donald Trump, la réaction, c'est de dire « Ah, le pauvre, on va encore l'embêter. Il est persécuté depuis 2 ans et demi. Et maintenant, comme ils n'ont pas pu se débarrasser de lui, ils lancent une procédure d'impeachment. » Bon, dans les élites, c'est un petit peu différent. Ce qui est intéressant et qui peut avoir un effet sur les sénateurs républicains, c'est que les démocrates, en lançant l'enquête susceptible de mener à un vote de mise en accusation, ont repris la main sur le déroulement du récit. Et c'est la raison pour laquelle les tweets de Donald Trump sont de plus en plus hargneux, agressifs et grossiers, pour ne pas dire vulgaires. Parce qu'il se rend compte qu'alors qu'il a dicté le récit médiatique depuis 2 ans et demi, là, ce sont les démocrates. Et les démocrates, pour le moment, ont été très, très stratégiques. Ils ont décidé de restreindre l'article d'impeachment à l'affaire ukrainienne. Ils oublient la clause d'émolument, toutes ces choses sur lesquelles il serait possible d'essayer d'avoir un impeachment. Mais puisque ça n'a pas fonctionné pendant 2 ans et demi, ils se concentrent là-dessus. Ça... C'est une idée importante. Et ils ont en particulier confié l'enquête à un démocrate modéré, plutôt qu'à Nadler, président de la commission judiciaire, qui lui est très partisan et qui aurait permis de colorer cette enquête d'impeachment par les troupes de Trump comme étant uniquement partisane. Donc, à partir du moment où ils tiennent le récit, et l'autre chose qu'ils ont faite qui peut faire avancer cette procédure assez vite, c'est que, vous savez qu'à chaque fois que les commissions de la Chambre voulaient... citer à comparaître des proches de Trump ou obtenir des documents, ce qu'on appelle les subpoenas, Trump disait non, il n'en est pas question, et il a fait un blocage systématique, ce qui revient à violer le pouvoir de contrôle oversight du Congrès. Et là, les démocrates ont dit, voilà, si vous continuez ce petit jeu-là, on va le mettre au dossier de l'impeachment, et il y aura un article d'impeachment qui s'appellera « Entrave au Congrès » ou « Outrage au Congrès ». C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser enliser dans les juridictions, comme avant, ils disent « Ah ben non, voilà ». C'est ça.
Ouais, en l'occurrence, cette personnalité, c'est le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, qui fait vraiment pression et qui va clairement essayer de tordre le bras de Donald Trump pour avoir justement les documents qu'il demande. Mais Stephen Ekovitch, Andesine nous dit, pour les démocrates, c'est une manière de reprendre à leur compte le récit finalement qui était contrôlé jusqu'ici par Donald Trump. Sauf que si le récit finit par... ce qui est aujourd'hui le plus probable, c'est-à-dire une procédure qui ne va pas à son terme, qui n'aboutit pas à sa destitution, finalement, ils sont perdants à l'arrivée.
Je ne sais pas. Dans le mesure où on est dans un registre de théâtre politique, de tous les côtés, et de toute façon, une présidence, depuis longtemps, est un théâtre politique. Un président est constamment, dès son investiture en janvier, dans une campagne électorale. Donc, de nos jours, les présidents font campagne dès le départ de leur mandat. Et pour dire faire campagne, ça veut dire aussi faire engager un théâtre politique. Donc, les démocrates, en effet, essaient d'être sereines, calme, c'est leur approche à cette investiture. Il veut pas être vu comme trop partisan, trop volubile, et que ce soit le camp qui est le camp de la raison, qui protège les institutions et surtout la Constitution. Il faut ajouter la Constitution. Propose et affiche clairement toutes les procédures d'impeachment et toutes les distributions de pouvoir. Mais pour les Américains, il faut ajouter que la Constitution est un document sacré. Et on touche pas allègrement à un document sacré. Et ça touche aussi, je dirais, sur une culture politique américaine. Je crois qu'il faut l'évoquer ici. Je crois que les Français ne comprennent pas dans quelle mesure la culture politique américaine mélange un côté biblique, religieux, et un côté des Lumières. Depuis toujours, les Américains ont arrivé, d'après Émile Durkheim, qui postulait que toutes les sociétés organisées politiquement ont une sorte de religion civile, une sorte de théologie politique. Mm-hmm. La théologie politique américaine, cette religion civile américaine, c'est une fusion de ces deux côtés de l'Europe, si vous voulez, ce côté protestant anglais et le côté lumière. Jusqu'à présent, la religion civile américaine arrivait à un genre de centre vital qui fusionnait ces deux traditions. Mais on est dans une phase aux États-Unis, une phase profonde. Et ça explique, je vais vous expliquer pourquoi cette base de Donald Trump est si solide à 35%. Si on se rend compte que cette religion politique jusqu'à présent, cette religion s'est cassée. C'est cassée en deux morceaux, en deux factions. On a maintenant ce qu'on peut appeler des nationalistes religieux. Et pour ces nationalistes religieux, ils veulent fusionner religion et politique pour rendre la citoyenneté dans l'une comme une citoyenneté dans l'autre. Mais ce nationalisme religieux, c'est le camp Trump, s'accompagne souvent avec des violences rituelles contre l'autrui. L'autrui, c'est l'autrui racial et l'autrui ethnique, l'autrui culturel. On estime, c'est Kant de Trump, s'estime que ça menace tout le système de contrôle social historique, on peut le dire, des Blancs. D'un autre côté, il y a le côté démocrate, une sorte de radicalisme laïque qui veut complètement séparer la raison et la foi. Et ça non plus, ça ne colle pas avec cette longue tradition américaine. Donc, on a une polarisation de cette religion civile. Mm-hmm. La base électorale, la base qui écoute Donald Trump est de cet côté de nationalisme religieux. Donc, ils sont prêts à tout croire, parce que c'est leur foi, à tout croire ce qu'il dit Donald Trump, même si ça ne colle pas aux faits.
Anne Desine. Vous voulez réagir, non?
Non, je suis assez d'accord à cela.
Marc, encore un mot? Eh bien, très bien. Allez, on va faire une petite césure maintenant. On va évidemment réengager toutes nos discussions. Mais d'abord, place à notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Le dessin que vous avez choisi ce matin, c'est un dessin qui met en scène une curieuse séance de bricolage.
Et oui, qui aurait cru qu'on pourrait comparer la procédure de destitution à un meuble Ikea? C'est pourtant ce que fait André-Philippe Côté, le dessinateur canadien qui a croqué cette caricature datée du 26 septembre et publiée dans le journal québécois Le Soleil. Dans ce dessin, quatre bricoleurs du dimanche tentent de monter un meuble en kit. Les pièces sont encore entreposées pêle-mêle dans le carton sur lequel est apposé le logo de la célèbre marque suédoise. En revanche, pas de nom de meuble compliqué, celui-ci s'appelle tout simplement destitution. Les quatre personnages représentent sans aucun doute les démocrates qui ont lancé cette procédure. Et à en croire leur regard éberlué et les points d'interrogation qui remplissent les bulles de dialogue, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas en équipe. Après tout, on est en pleine campagne pour les primaires démocrates. Et ce dessin illustre un cruel manque de concertation. Chacun est concentré sur un bout de notice ou un fragment de ce meuble complexe. L'un d'eux tient une pièce tranchante qui ressemble à la lame d'une guillotine. Alors on peut se demander, les démocrates réussiront-ils un jour à couper la tête du roi ? Le roi, bien sûr, c'est Donald Trump. Le président américain observe la scène depuis le balcon de son palais de marbre blanc. Il est coiffé d'une couronne et il a enfilé un accoutrement clownesque aux couleurs du drapeau américain. Mais la gaucherie de l'opposition ne le fait pas rire. Ces démocrates, enfermés au sein de sa forteresse, ne parviendront peut-être pas à le destituer, mais ils pourraient sérieusement compromettre sa réélection en 2020. Le seul qui sourit, c'est le bouffon du roi, posté juste à côté de Donald Trump. Cet autre clown, c'est probablement Mike Pence, qui, en cas de destitution, prendra la place du milliardaire. Sauf si de nouvelles révélations l'aspirent à son tour dans l'Ukraine Gate.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on diffuse, évidemment, qu'on publie sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Ça vous inspire, Stephen Ekovitch, Anne Desine? Moi, je ne vous cache pas que si j'étais à la place de ces démocrates qui doivent monter ce meuble de la destitution, aucune chance que j'y parvienne. Enfin bon, c'est pas moi qui suis aux commandes. Anne Desine?
Oui, je préfère avoir à réfléchir.
Dans le micro.
À réfléchir plutôt que de monter un meuble Ikea. Je pense qu'il ne faut pas être trop négatif. Les démocrates ont pris un risque calculé. La présidente, la leader Nancy Pelosi tient bien ses troupes. Adam Schiff, dont vous avez rappelé, oui, ce que j'avais oublié, qu'il est président de la commission du renseignement, est un calme. Il n'aime pas Donald Trump, mais il sait ce qui doit être fait. Alors, simplement, il faut savoir que parmi les candidats à la présidence, certaines sont sénatrices. Et c'est vrai que ce que dit Kamala Harris n'aide pas nécessairement la cause de l'impeachment. Sa dernière trouvaille hier, c'était de supprimer, enfin, de fermer le compte Twitter du président. Bon, c'est compte tenu de la philosophie derrière le premier amendement, la libre liberté d'expression, c'est impossible. Cela étant, on pourrait défendre qu'il abuse de ce fil Twitter parce que un individu, effectivement, ne peut pas se faire priver de sa liberté d'expression, mais lorsque le président appelle à la haine ou appelle à d'autres choses, ce serait défendable. Simplement, ça n'aide pas la cause démocrate. Et il y a beaucoup d'éditoriales, il y en avait un hier dans le Washington Post, qui disait justement qu'il fallait une unité des démocrates.
Alors justement, on va parler de l'investiture démocrate, je vais vous laisser réagir Stephen Ekovitch, oui, mais il y a peut-être une question que je pourrais me permettre de glisser entre-temps, parce qu'on voit aussi, alors on a parlé des effets de cet impeachment sur la popularité de Donald Trump, mais il y a aussi le recul assez net maintenant de Joe Biden. En une semaine, Joe Biden, il a perdu 2,5 points. Il est maintenant sous la barre des 30%, quand on regarde les sympathisants démocrates. Il y a même certains sondages, là, cette semaine, où Elizabeth Warren passe devant Joe Biden. Alors, est-ce qu'au fond, la première victime de ce lancement de procédure, c'est pas Joe Biden ?
Deux choses. D'accord, d'abord, je suis d'accord avec Anne. Je crois que l'équipe démocrate n'est pas si désordonnée que cette caricature montre.
C'est une caricature.
Voilà. Et en effet, Nancy Pelosi, elle tient le fouet, elle met ses troupes dans les rangs, donc ils sont solidement derrière leur leader. Sur les sondages...
Joe Biden, il ne fait plus la course en tête là depuis cette
semaine.
Mais
c'est une bonne chose.
Oui,
mais peut-être. Non, mais ça, c'est peut-être. votre opinion, Anne Desine. Ça semble être un effet assez direct.
En règle générale, c'est beaucoup trop tôt. Dès tous les sondages à cette époque, on ne peut rien ou très peu décerner de l'aboutissement d'une élection présidentielle. Donc, j'ai regardé les sondages, mais on ne peut pas aujourd'hui à prolonger dans l'avenir les chiffres de sondage aujourd'hui pour dire que un ou un autre va être le candidat à la présidence. Il y a tellement de choses, surtout de nos jours, avec Donald Trump.
C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faisait lui aussi, d'une certaine manière, les frais de cette procédure, dans la mesure où quand même c'est lui qui est directement au cœur des choses, même si on ne sait pas.
Et c'est ponctuel.
Il n'empêche qu'il est au cœur de cette affaire-là, que visiblement il a l'air, d'après ce que disent les sondages, même s'il faut évidemment se méfier, il a l'air d'en payer aussi un peu les conséquences, Anne Desine.
Oui, pour les coups, pour l'instant.
Oui, très rapidement. Sa chute a commencé avant. L'impeachment ne fait que rajouter une couche. Mais il faut voir aussi que le pays entier, pas seulement les démocrates, trouve quand même un petit peu honteux que le fils du vice-président profite de la fonction de son papa pour toucher $50,000 par mois, qui est quand même le salaire des ouvriers à Détroit. Et donc, ce qui risque de se produire, quelle que soit l'issue de l'élection, c'est une vague de législation comme ça s'est passé après le Watergate. Après le Watergate, il y a eu beaucoup de lois votées, et en particulier celle qui a créé, on en parle beaucoup, les inspecteurs généraux. Les inspecteurs généraux, c'est grâce à l'inspecteur général des renseignements que l'on a cette affaire, et quelqu'un de très important dont on parle peu, c'est l'inspecteur général du ministère des Affaires étrangères qui a donné des tas de documents hier pour l'audition de Volcker. Donc, en fait, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un scandale gigantesque, comme l'impeachment de Nixon, qui n'a pas été, etc., c'est que le Congrès se rend compte qu'il faut vraiment contrôler la présidence et vote des lois. Et là, il est question de voter une loi, plus tard, interdisant aux enfants des présidents et vice-présidents d'occuper des fonctions à l'étranger. Sauf, ce qui est intéressant, c'est que la fille de Trump bénéficie considérablement de la position de son papa. Elle obtient des tas de marques du gouvernement chinois, d'autres gouvernements.
Sauf que ça ne choque pas l'électorat de Donald Trump, alors voilà. Que ça choque l'électorat démocrate. Alors, moi, je poursuis quand même dans cette idée que peut-être Joe Biden va faire les frais progressivement de tout ça, une fois encore, même si bien sûr il faut se méfier des sondages, il n'empêche que la dynamique est mauvaise pour lui et qu'elle est plutôt bonne pour Elizabeth Warren, qui est en train de passer là-devant. Là, cette semaine, il y a plusieurs sondages qui la mettent devant. Est-ce que Elizabeth Warren, qui est évidemment pas du tout la même genre de candidat. On est sur vraiment l'aile gauche avec Bernie Sanders, beaucoup plus que le centriste de Biden.
De Harvard, tout ce qui va pas chez l'électorat de Donald Trump. Hein.
Alors, est-ce que justement, c'est la bonne...
C'est le profil d'horreur de ceux qui soutiennent Trump. Hein.
Mais alors, est-ce que justement, c'est pas la bonne candidate pour aller affronter Donald Trump, Steve Anikovich?
Je viens de vous dire non. Et justement, pour ces raisons-là, son profil est un profil des perdants démocrates des élections présidentielles récentes.
Oui, alors, mais moi, je rajouterais quand même autre chose. Bien sûr, sur le papier, elle a tout faux, tout ce que détestent les électeurs de Trump parce qu'elle est trop à gauche. Si ce n'est que quand on la regarde en meeting, elle est bien, elle n'est pas toute guindée comme était Clinton, elle est en t-shirt, en cardigan, elle harangue ses foules et ce n'est pas. Sanders, c'est un imprécateur. C'est-à-dire qu'il critique le système. Elle propose. Et elle s'attaque à des choses qui sont importantes. Et les gens commencent à comprendre que c'est important. Le fait que les lois antitrust ne sont pas appliquées. C'est pour ça qu'on a des géants. On a des monopoles qui abusent de leur pouvoir. Et ce sont eux qui font baisser les prix, qui font telle et telle chose. Donc, quelque part, elle a un discours qui peut parler à cette classe ouvrière, en particulier des États, des fameux États swing states, qui ont basculé en 2016. Là, la chose qui va jouer un rôle, c'est que jusqu'ici, ces ouvriers des États tampons, des États ouvriers, si j'ose dire, entre guillemets, ils ont voté contre leurs intérêts grâce à un récit très bien ficelé par les républicains, les conservateurs, leur disant « Mais faites attention, si vous votez pour les démocrates, ce sont vos libertés qui passent à la poubelle, on va vous confisquer vos armes, on va vous faire ceci, méfiez-vous d'un État fédéral trop fort », alors que c'est l'État fédéral un peu fort qui fait de la redistribution et qui a mis en place l'assurance médicale qui permet maintenant aux enfants de moins de 26 ans d'être assurés sur la même assurance que leurs parents, qui permet aux gens qui ont une maladie chronique d'être assurés, ce qui n'était pas le cas.
Justement, est-ce que là, cette fois, ils pourraient, ces mêmes électeurs, voter non pas avec le cœur, mais avec la raison pour les mêmes motifs? C'est-à-dire, quand on entend Elizabeth Warren, d'une certaine manière, ça fait vraiment écho au discours de Trump. On est aussi sur les ravages de la mondialisation. Voilà. On nous parle d'une élite corrompue. On n'est pas très éloignant, d'une certaine manière. On a là l'autre populisme américain, celui de gauche,
mais
finalement.
On ne vote jamais avec la raison, on vote avec l'émotion et les affects. Et c'est bien connu, les politologues ont bien étudié les questions. On ne vote pas avec la raison. Donc on peut faire un bon raisonnement que le programme d'Elizabeth Warren est le meilleur, mais peut-être pas, parce qu'elle veut imposer soin médical unique, étatique aux États-Unis. Tandis que le candidat que je trouve le plus étonnant, c'est Pete Buttigieg, le jeune.
37 ans, le plus jeune.
Voilà, le plus jeune. 37 ans. Son programme est plus pragmatique, plus astucieux. Il veut pas imposer dans ses programmes. Il veut donner le choix aux Américains de choisir une assurance d'État ou leur assurance privée. En sachant qu'au bout d'un compte, les Américains vont se rendre compte que leur assurance privée n'est pas aussi bien que cette assurance proposée par l'État. Donc, c'est beaucoup plus astucieux sur le plan stratégique que ce qu'il propose à Elizabeth Warren. Encore une fois, cet intellectuel de côté est qui veut imposer l'État sur beaucoup de plans, qui va faire buter, qui bute contre les réflexes d'un électorat de col bleu, mais aussi de l'électorat de Donald Trump. Hein.
Il n'empêche qu'elle est quand même plutôt pas mal positionnée. Elle est sur la rampe de lancement. D'abord, effectivement, comme je le disais, dans les sondages nationaux, elle passe devant Joe Biden. Quand on regarde ensuite les premiers États qui sont absolument décisifs dans l'investiture en février, ça commence toujours par l'Iowa et New Hampshire, visiblement, dans ces deux États-là, qui sont clés, Warren est très très bien positionnée. Elle est en passe d'être le futur adversaire de Donald Trump. Point.
C'est trop tôt à dire. Et on est dans un cas de figure particulier. On est dans un cas de figure 10 contre 1 pour l'instant. C'est complètement différent si, quand c'est 1 contre 1, que ce soit Elizabeth Warren contre Donald Trump. Là, on est dans une toute autre différence.
Vous l'avez gagné l'investiture démocrate, mais pas gagné contre Donald Trump.
C'est
Pete Buttigieg, c'est mon chouchou aussi. Moi, je vois bien, alors je prends des risques qui est terrible. Un ticket Warren Buttigieg, parce que lui, c'est un ancien combattant. Il sait ce que c'est que la guerre, donc il ne va pas faire n'importe quoi, comme je ne dirais pas qui. Et il a effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement posé, je l'ai vu et entendu dans beaucoup d'interviews, il n'esquive pas les questions. Il répond de façon extrêmement intelligente, extrêmement structurée, et d'ailleurs, il est très bien placé. Ce garçon qui a 36 ans, qui a simplement été maire d'une ville, justement, dans le cœur profond de l'Amérique, qui doit basculer si, pour le président qui sera, ou la présidente qui sera élue, il est extrêmement cohérent, et je crois que dans les derniers sondages, il est numéro 5 ou numéro 6. Ce qui est absolument incroyable pour quelqu'un qui a juste le fait d'avoir été maire d'une ville. C'est ahurissant.
C'est lui l'avenir du Parti démocrate.
Moi, je le trouve absolument fantastique.
Il me semble, oui. Il a quasiment tout.
Oui. Mais voilà.
Le côté homosexuel, parce qu'il est ouvertement homosexuel, ça peut jouer contre lui, pour l'électeur général. Mais chez les démocrates, c'est pas un problème.
Alors, cette fois-ci, c'est l'avenir du Parti démocrate. Dans lors des midterms, on a beaucoup parlé de Beto O'Rourke. Alors même qu'il avait perdu du côté du Texas, on disait c'est lui l'avenir du parti. En fait, tous les 6 mois, ça change.
Et voilà, c'est pour dire que c'est
c'est pour dire aussi la crise dans laquelle se trouve le Parti démocrate.
Mais c'est vrai, c'est compliqué. Et ce que nous faisons là, c'est pratiquement impossible. Nous sommes à 1 an des élections, à quelques mois des premières primaires, etc. Quand même, il y a un mouvement fort pour Warren et ce serait bien qu'une partie des électeurs se rendent compte. Tout va se jouer, comme d'habitude, sur la participation. C'est-à-dire, si elle réussit à le galvaniser suffisamment d'électeurs démocrates, donc de noirs, d'hispaniques, etc., pour aller voter, comme ça s'est passé en 2018. 2018 a été une année record en taux de participation électorale. Ça peut compenser la participation du côté républicain.
Ils les soutiennent ? On a des indications là-dessus ? Les afros, par exemple, soutiennent Warren ?
Non, justement. Ça, c'est un des problèmes.
De façon générale, lors d'une élection générale, le Parti démocrate à 90% quasiment de tout l'électorat noir.
Oui, bien sûr, mais pour l'investiture démocrate. Bon,
pour le moment, avec plusieurs candidats, les Africains-Américains, les Noirs, préfèrent Biden. Mais Biden, il va se faire manger tout cru. En admettant qu'il soit le candidat investi, ce que je ne crois pas, ce que je ne souhaite pas, il va être mangé tout cru par Trump au premier débat. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de résister à Trump.
Et maintenant, M. le Président, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous? Impeach me, find me, jail me, sue me. My Mary's love means much more to me. Enough, enough, we want no preachment. It's time to vote on his impeachment.
It's time to vote on his impeachment.
The senator from Minnesota.
Guilty.
Check. The senator from North Dakota.
Guilty.
Check. The senator from Louisiana.
Guilty.
Check.
Voilà, je ne sais pas si vous entendez la musique qu'on entend à l'instant, la Impeachment de George Gershwin, qui est tirée de sa comédie musicale. Et il y est question d'impeachment suite à une rupture de promesse de mariage de la part du président des États-Unis. En tout cas, c'est ce que les informations qui m'ont été fournies par Benjamin Huck a trouvé évidemment cette musique. Merci infiniment à nos deux invités, Anne Desine, Stephen Ekovius, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur la situation politique aux États-Unis. Un grand merci à vous, cher Marc Sémon. On se retrouve la semaine prochaine.